Bonsoir à tous, à chacune et à chacun. Je vous invite pour commencer ces moments à ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux. Livre aux Hébreux, au chapitre 6 et au verset 11. Hébreux 6, 11. Deux courts textes pour introduire ces moments. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Je relis le verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Est-ce que vous aimeriez hériter les promesses de la parole de Dieu ? On continue dans Hébreux encore, au chapitre 11 et au verset 24. Il nous est donné un exemple, l'exemple d'un homme qui, par la foi, a vécu des choses extraordinaires. Il est dit au verset 24, donc du chapitre 11, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Amen. Amen. Qui aurait aimé être une petite souris du temps de Moïse et voir tout ce qui s'est passé ? Une souris qui vit vieux parce qu'il y a eu tant de choses. Une grosse souris. J'aurais aimé voir tout ce qui s'est passé. On va étudier ce soir ensemble le chapitre 14 du livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible, chapitre 14, ce passage justement où Moïse s'est retrouvé avec tout le peuple devant la mer Rouge et où alors qu'il était pris entre deux feux, on va dire, entre la mer Rouge et puis l'ennemi qui arrivait derrière, il a eu une attitude à avoir. Je prie, et je pense que vous priez aussi, pour qu'il y ait des ouvriers qui se lèvent dans la moisson. L'Église de Jésus-Christ et même le monde entier a besoin d'ouvriers qui se lèvent dans la moisson, parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers, dira Jésus. Et tout à l'heure, dans l'heure qui a précédé, j'ai entendu quelques prières qui sont montées en disant « Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson, Seigneur, s'il te plaît. » Et que parmi nous, il y ait des ouvriers, permettez-moi de dire des ouvrières, qui se lèvent, qui ont un cœur pour le Seigneur et qui vont non pas être comme ce peuple qui va être un peu à la traîne et un peu devoir être tiré, mais au contraire comme Moïse, qui vont imiter la foi de Moïse pour obtenir les promesses non seulement pour leur propre vie, mais aussi pour tous ceux qui seront à leur contact, enfants, parents, mari, épouse, et toute l'Église, et tous ceux qu'ils rencontreront même dans la rue, où Dieu les conduira, où Dieu les placera, parce qu'on a besoin d'ouvriers. Vous croyez que c'est bien pour un pasteur, pour un ministère, d'avoir des hommes, des femmes autour de lui qui l'encouragent de par leur foi? Je crois que c'est bien, hein, Monsieur Gou est d'accord, Michael aussi, les anciens sont d'accord, et ils ont été eux-mêmes des encouragements, je le crois, et Dieu attend qu'il y en ait d'autres qui se lèvent eux-mêmes. Je crois que Dieu envoie, mais il attend de voir dans un cœur bien disposé, et un cœur assoiffé, un cœur qui a la foi en Dieu, pour pouvoir s'emparer de toutes les promesses. On va voir et on va chercher à imiter la foi de Moïse. Alors, on va faire quelque chose qui va être très dur pour vous. On va lire le chapitre 14. On reste attentif. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël « Ils sont égarés dans le pays ». Le désert les enferme, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute cette armée, son armée, serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services ?» Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée les précédait, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il mit le désordre dans le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit la main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Ça fait une belle lecture, une grande lecture, mais peut-être que quelqu'un n'avait jamais lu ces textes ce soir. Et en lisant ça, peut-être, vous dites, mais quelle chose extraordinaire. Effectivement, j'aurais aimé voir tout ça. Ça a dû être extraordinaire. On aurait aimé avoir, être à l'époque, à ce temps-là, des caméras. On aurait fait un film, encore mieux que les meilleurs, scénaristes. Hein, tout ce qu'on veut. Non, c'est pas un scénario imaginé, c'est la réalité. Je vous rappelle et je me rappelle que c'est la parole de Dieu. Et la parole ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il ne se moque pas de nous. Et lorsqu'il dit des choses aussi folles que ça à nos yeux, peut-être, c'est la vérité. Et on peut être sûr que ça s'est passé. Je m'attarder là-dessus, je voudrais remettre un peu le contexte. Donc, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Il est délivré par la main puissante de Dieu qui a fait les plaies d'Égypte. Je vous laisse lire un peu avant. Il délivre son peuple. Le peuple d'Israël sort avec toutes sortes de richesses. Il dépouille le peuple d'Égypte. Et il va commencer à marcher. Et dans les versets qui précèdent ce chapitre, il est dit que Dieu fait passer le peuple d'Israël par la mer Rouge, en face, par le désert, en face de la mer Rouge, parce que Dieu sait, il voit le cœur, vous savez que Dieu lit dans nos cœurs, comme dans un livre ouvert. Et il sait que dans le cœur du peuple d'Israël, il y a comme une crainte, et si jamais il se retrouvait face à la guerre, face aux pharisiens, non, aux philistins, ils allaient revenir en Égypte, parce que quand il y a la guerre, quand il y a un combat, eh bien c'est pas facile, on se dit où j'étais mieux, même si j'étais esclave, même si j'étais dans un pays qui ne m'appartenait pas, je suis quand même mieux parce qu'au moins il n'y a pas le combat. Nous ne soyons pas comme ce peuple qui craint le combat, mais ayons la foi dans un Dieu qui délivre et qui combat pour nous. Amen. Le Seigneur nous aidera malgré tous les combats, toutes les épreuves. Jésus, du moment qu'il est avec nous, il ne nous abandonne pas. Il est là du début à la fin de notre vie, du moment qu'on la lui confie. Et Dieu, il est bon quand même. Il va prévenir Moïse et il va lui dire de prévenir le peuple. Vous l'avez lu avec moi ? Dieu dit à Moïse de prévenir Israël que le peuple d'Égypte, Pharaon avec toute son armée, va venir et qui va comme ça les coincer, mais que Dieu va faire éclater sa gloire. Il dit que tout ça, c'est pour sa gloire, que l'ennemi va servir à faire éclater sa gloire. Alors il prévient, super quand on est prévu, il va y avoir une épreuve, mais t'inquiète pas, je suis là. Ça serait bien si à chaque fois qu'il y a une épreuve, on soit prévenu à l'avance, que tout soit décrit et que la fin, on la sache, que Dieu est avec nous. C'est un peu ce que Dieu dit. Toutes les épreuves, il prépare le moyen d'en sortir. À nous de lui faire confiance. Il n'avait pas dit comment, mais en tout cas, il allait le faire. Et on voit que le peuple d'Israël fait jusque-là, tout va bien. Mais quand l'épreuve arrive vraiment, ça change de discours. Le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il fait ? Alléluia ! Merci Seigneur de nous avoir prévenus. Merci Seigneur, parce que tu es là, tu es présent au milieu de nous par une nuée et par une colonne de feu. On va voir ce que tu vas faire, hein, comme ce pasteur âgé qui, lorsqu'il avait une épreuve, il étonnait tout le monde, il disait « Ah, j'ai hâte de voir comment Dieu va m'en sortir ». Et c'est ça un peu. Hein. Non, ils n'ont pas eu cette attitude, ils ont crié à Dieu. Je crois que les cris qu'ils ont poussés, ce n'était pas « Seigneur, délivre-nous », c'était « Qu'est-ce que tu nous fais ? Où tu es, Seigneur ?» Il était là, présent. Imaginez-vous la scène, c'est dit, relisez le verset 22 et 21 et 22, « Dieu est là, présent. » Il y a une colonne de nuée, une colonne de feu. L'une pour conduire le jour, l'une pour conduire la nuit. 24 heures sur 24, la présence de Dieu est manifeste. C'est sûr, il est là. Et pourtant, il s'affole. Je ne sais pas si vous aviez déjà vérifié, constaté ces détails, mais c'est quelque chose de fou. Dieu est là au milieu, quelque chose de surnaturel. Vous en voyez souvent des nuées, des colonnes de feu, vous ? J'en vois pas. Et pourtant, eh bien, ils doutent, ils ont peur, ils sont effrayés. Combien de fois Dieu nous dit par sa parole « Je suis avec toi » tous les jours, jusqu'à la fin. Combien de fois Dieu nous a fait grâce en nous faisant vivre des expériences qu'on ne méritait pas, mais il a pris soin de nous, il a pourvu, il a donné son Fils à la croix. Et malgré toutes ces fois où il a manifesté sa grâce, encore on peut être dans ces cas de doute, dans des moments de frayeur. Et heureusement que le peuple d'Israël a eu un Moïse. Vous êtes d'accord avec moi ? Heureusement qu'il y a eu un Moïse pour Israël, pour le peuple. Parce que sans lui, ils auraient été perdus. Regardez ce que Moïse va faire. Verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. » Moïse, je voudrais voir un petit peu l'attitude de Moïse pour qu'on puisse ressembler à Moïse et chercher à avoir ce même cœur pour le peuple de Dieu, pour l'Église dans laquelle Dieu nous place, qu'on soit un peu des encouragements pour l'Église. La première chose que je note, c'est que Moïse est un homme de foi. On l'a lu tout à l'heure dans Hébreux, Moïse a eu la foi, donc il n'a pas craint le roi. La foi bannit aussi la crainte, comme l'amour. L'amour bannit la crainte, mais la foi fait qu'on n'a pas peur, parce qu'on sait. On est convaincu que Dieu veille sur nous. On est convaincu de la toute-puissance de Dieu. On est convaincu que si Dieu conduit notre vie, il va nous mener là où il faudra, il prendra soin de nous comme un bon berger, Jésus-Christ. Et Moïse vraiment nous donne un modèle de foi par l'exhortation qu'il donne à ce peuple. La première chose, ne craignez rien. Deuxième chose, restez en place. Ne partez pas, ne vous dispersez pas, ne rentrez pas au pays d'Égypte. Restez en place. Quand l'épreuve vient dans votre vie, n'ayez pas peur, mon frère, ma sœur. Quand l'épreuve vient dans ta vie, reste en place, ne retourne pas dans le monde. Combien de fois j'entends des gens qui me disent « Mais finalement, quand j'étais dans le monde, j'avais moins d'épreuves, j'avais moins de soucis. » Ou alors, quand je savais rien, quand j'étais pas au courant de Dieu, ben j'étais plus heureux parce qu'au moins j'étais inconscient. Quelle folie. Il faut regarder la fin. La fin, c'était l'enfer. Aujourd'hui, la fin, c'est le paradis et le ciel pour l'éternité. Il faut toujours regarder à la fin, au fruit. Et il va dire, regardez. Parce que des fois, on ne regarde pas. On est tellement omnibulé sur notre problème qu'on regarde que ça. Mais regardez à la colonne de nuée. Regardez à la colonne de feu et regardez avec un autre regard. Persévérez. Regardez avec la promesse. Regardez avec l'œil de la foi. On va prendre un texte dans Colossiens chapitre 1. Et versets 21 à 23, j'ai été frappé de voir que c'est exactement la même exhortation que Paul allait laisser aux Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 21, je le lis. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins, c'est hyper important ça, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Fondés, j'ai pas peur. Inébranlable, fondé, je garde mon poste, pardon, inébranlable, c'est-à-dire je me laisse pas vaciller, je garde la foi, je garde de l'assurance, je suis inébranlable. Et sans détourner, sans vous détourner de l'espérance, gardez un regard à ce que Dieu a dit, à ce que Dieu a promis, à ce que la parole de Dieu annonce, à l'espérance qui m'est promise, le ciel. Toujours garder le regard. Oui, bien sûr que le méchant, il a l'air de prospérer plus que le juste, ce que va dire Jérémie dans les Lamentations ou dans le livre des Psaumes. On dirait que le méchant, il prospère encore plus. Oui, mais regarde à la fin. La fin, c'est quoi? Lui, c'est l'enfer et toi, c'est le ciel. Garde les yeux fixés sur l'espérance. L'espérance du ciel qui est donnée à ceux eh bien, qui croient en Jésus et qui le suivent. Première chose, Moïse a été un homme de foi. Il n'a pas craint, il n'a pas abandonné son poste, sa position en Christ. Et là, c'était en Dieu. Et il a regardé avec un regard non pas humain, non pas avec la raison humaine, la sagesse humaine, mais avec le regard de la foi. Deuxièmement, il est dit, les Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Ces Égyptiens-là, vous les verrez plus jamais. Car il y a, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Il est sûr. Et là, Moïse, c'est un homme de foi, mais aussi d'assurance. Il a de l'assurance, vous allez me dire, c'est pareil. Oui, il y a la foi, mais la foi c'est avant, mais il est sûr que ça va arriver. Il a une assurance au point qu'il dit, vous voyez cela, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit, tout simplement. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 14, il est écrit ce qui attend, ce qui va se passer dans la fin des temps, ce qui a déjà commencé à se passer, mais ce qui va se poursuivre jusqu'à ce que ce soit accompli à la perfection. Ils combattront contre l'agneau, donc les ennemis de Dieu, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, nous aussi, les élus, et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Il n'y a pas d'ennemi qui soit plus puissant que Dieu et que Jésus-Christ. Jésus-Christ a remporté la victoire parfaite à la croix, il a obtenu toute autorité dans les cieux et sur la terre. Ceux qui sont pour nous sont plus grands et plus puissants que ceux qui sont contre nous, et Jésus va remporter une victoire incroyable. À la fin des temps, Satan va être détruit, il va être jeté dans les temps de feu, les démons avec. Il n'y a pas d'ennemi trop puissant pour Dieu. Moïse est un homme qui a de l'assurance, donc il est rassurant. Quand j'ai de l'assurance, quand je suis rassuré, je rassure les autres. Et Moïse est un homme qui rassure les autres. Est-ce que dans votre comportement, dans votre foi, vous êtes tellement convaincu, vous vous attendez tellement à voir la chose s'accomplir que vous êtes rassurant? Tu sais où il y a une épreuve? Mais regarde l'espérance, dans le ciel. Qu'importe la maladie sur la terre, dans le ciel, il n'y aura plus jamais de maladie. Et Dieu peut te guérir sur la terre, parce que Dieu guérit encore aujourd'hui. Vous croyez que Dieu peut guérir encore aujourd'hui? Ou c'est fini ça? Il y en a beaucoup hein, qui croient que c'est fini le temps des miracles. Non, je crois qu'il est encore pour nous aujourd'hui. Moïse, il s'est tenu, il a dit, vous allez voir ses ennemis, vous ne les verrez plus jamais. Ceux qui sont là devant vous, ils vont mourir. Et troisième chose que Moïse a fait, Moïse a appelé à la soumission. C'est bien d'être sûr que Dieu va agir, mais il va dire... L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Gardez le silence. Il appelle à une entière soumission. Vous savez que le peuple commence à se plaindre. On a vu comment il parlait de Moïse. Le peuple a commencé à dire sur Moïse, mais tu sais, c'est ta faute. Pourquoi tu nous as emmenés là? Comme si Moïse, c'était lui qui avait choisi les choses. Souvenons-nous que Dieu est là. Dieu est là, par sa nuée, Dieu est là. Il est même dit que Dieu regarde depuis la nuée. Donc Dieu est là. Et il critique Moïse, c'est sa faute. D'autres textes nous racontent qu'à divers moments, ils ont voulu le lapider. C'est pas qu'une fois, ça s'est passé plein de fois. Et Moïse, il dit non, 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 gardez le silence. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de gémir et regardez, vous allez voir ce que vous allez voir. Parce que ce qu'ils ont vu, j'aurais aimé le voir. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous inquiéter. Pourquoi est-ce que Moïse a la foi? Tiens, on reprend le point 1. Pourquoi est-ce que Moïse a la foi? Moi, je crois que c'est parce qu'il connaît Dieu. Il connaît Dieu personnellement. Il a des rendez-vous quotidiens avec Dieu. Si je veux avoir la foi, être un homme ou une femme de foi, il faut que j'ai une relation intime avec le Seigneur. En lisant la parole, en ayant un moment de prière, en louant le Seigneur, mais vraiment comme un face-à-face, pas juste en assemblée. Je dis pas juste, hein. C'est bien les assemblées, et il faut persévérer dans l'assemblée. Mais déjà, la base, elle est dans une intimité personnelle. Pourquoi on peut avoir la foi? Mais parce qu'on connaît Dieu personnellement, on connaît Jésus-Christ personnellement, on médite sa parole. Autre critère qui fait qu'il a la foi, c'est qu'il a reçu les paroles de Dieu. Il est le porte-parole de Dieu. Dieu lui parle face à face, littéralement, c'est bouche à bouche. C'est une expression de marché. Pour ceux qui se disaient des secrets, tu sais, là, lui, il vend le poisson moins cher, tu devrais y aller. Ils se disaient ça entre amis, pas fort, comme on appelait ça bouche à bouche. Nous, on dirait bouche à oreille, vous savez. C'est vraiment le secret qu'on se dit comme ça. Et Dieu avait une relation avec Moïse, non pas de face à face, puisque personne n'a jamais vu Dieu, mais comme un ami qui lui dit les secrets à l'oreille. Et Dieu révélait ses secrets à Moïse personnellement, parce que Moïse aimait la présence de Dieu. Et Dieu pouvait lui dire des secrets, et lui donner sa parole. Et on connaît ce texte, j'ai noté la référence, Romains 10, 17, où il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou de Dieu. Si je veux avoir la foi, il faut que j'ai les secrets de Dieu, que j'ai une révélation de la parole de Dieu, une compréhension spirituelle qui se fait par l'Esprit de Dieu, non pas théologie, une théologie extraordinaire, simplement un raisonnement humain, mais une révélation du Saint-Esprit sur les textes. Et ça passe par une intimité avec Dieu, une soif de sa présence. Voilà pourquoi Moïse était un homme de foi, à nous de l'imiter. Moïse, pourquoi est-ce qu'il a de l'assurance? Pourquoi est-ce qu'on a de l'assurance devant Dieu? Quel est le critère pour avoir de l'assurance devant Dieu et pas avoir honte devant Dieu? Dites-moi. L'obéissance. Si je désobéis à Dieu, j'aurai pas d'assurance. Mais si j'ai une vie d'obéissance devant Dieu, je suis plein d'assurance. Vous n'êtes pas d'accord? Ça vous est arrivé d'avoir péché et de devoir prier juste après ou de vous retrouver le dimanche matin parce que ça fait une semaine, vous avez oublié Dieu, vous l'avez mis de côté? Vous avez fait votre vie, vous n'avez pas lu la parole, vous n'avez pas prié, vous sentez une culpabilité dans votre cœur. Parce que d'un coup, vous vous retrouvez dans la présence de Dieu, ah, ça fait encore une semaine. Et on n'a pas oublié au Seigneur qui dit, viens près de moi, je veux te bénir, je veux te dire des secrets. Et puis, tout simplement, quand on a menti, notre cœur qui bat, quand on ment, parce qu'on sait que ce n'est pas la vérité, et notre conscience, elle nous travaille, devant Dieu, on n'a pas d'assurance. Quand on triche, quand on fait tout ça, le péché nous enlève l'assurance que la foi devrait nous donner. Puisque la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, ça va avec l'assurance. Mais des fois, on croit en Dieu, on croit Dieu, mais on n'obéit pas. L'assurance nous est volée. Moïse, il obéit à Dieu. Lève ta main. Lève la verge. Hop, qu'est-ce qu'il fait? Il lève la main. Il n'est pas dit que Moïse réfléchit. Il lève la main. Et ça se fait. Parle au peuple d'Israël. Israël fit, qu'est-ce qu'il est dit? Les enfants d'Israël firent ainsi, c'est qu'il a fait son travail. Relève la main encore une deuxième fois pour que la mer se referme. Il lève la main. Il n'a pas dit, oh j'ai reçu le pouvoir de lever la main et la mer s'ouvre, la mer se fait. Je repars, j'ai reçu l'autorité de... Non, il a une intimité. Et quand il faut lever la main pour que la mer s'ouvre, il la lève, pas avant, pas après. Il ne voit pas ça comme un pouvoir qu'il a reçu de Dieu non plus. Il refait quand? De relever la main. Quand Dieu lui dit de le refaire. Et combien de fois on est comme là, j'ai reçu le don d'eux, mais on n'a plus d'intimité avec Dieu. Et pendant une période de notre vie, Dieu nous a accordé d'apporter une prophétie, un don spirituel comme on l'appelle. Et on croit qu'on a reçu le don des prophéties. Et on continue à prophétiser alors qu'on n'a plus d'intimité avec Dieu. Cet après-midi, je parlais avec un homme qui disait « J'ai reçu le don des paroles de connaissance ou de prophétie. » Et j'ai dit « Mais est-ce que vous avez prophétisé pendant que vous aviez telle situation dans votre vie ?» Il dit « Ah non, je ne crois pas. » Puis en réfléchissant, on voyait que... Et des gens, ils me disaient « J'ai reçu le don. » Et ce que Dieu donne, c'est irrévocable. Je dis « Mais ce n'est pas biblique. » Puisque dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu donne, mais si on change d'attitude, Dieu reprend. Il est écrit qu'il ne se repent pas de son appel, c'est-à-dire il ne regrette pas de nous avoir appelés quand on était obéissant. Mais si on désobéit, on perd ce que Dieu donne. Le salut, c'est pareil, on le reçoit, mais ce n'est pas irrévocable. Travaillons à notre salut, si du moins comme on l'a lu. Moïse avait de l'assurance face à l'épreuve parce qu'il était obéissant. Ça m'a parlé. J'ai dit, tiens, que je puisse être comme Moïse, que je puisse être comme lui. Et puis, troisième chose, pourquoi Moïse appelle-t-il à la soumission, au silence? J'ai trouvé trois choses. Deutéronome, chapitre 20, verset 8. Je vous le lis ou vous le cherchez, comme vous voulez. Deutéronome 20, verset 8. Il nous est parlé d'une situation où il y aura deux armées, l'une face à l'autre. Une, c'est Israël, l'autre, c'est l'ennemi. Il est dit qu'avant d'entamer le combat, les chefs de l'armée vont passer. Ils vont dire, on manque d'ouvriers, tous ceux qui veulent venir, même les découragés, ils viennent. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il va dire? Les officiers continueront à parler au peuple, puisque vous pouvez lire au-delà qu'il y a d'autres critères. Qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Littéralement, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si j'ai des paroles décourageantes, ben, je vais décourager celui qui les entend. Et Moïse, il dit, gardez le silence. Taisez-vous. Vous allez décourager ceux qui auraient peut-être un peu de foi. D'ailleurs, Moïse est le bon exemple, puisque lui-même ne se plaint pas de ce qu'on lui a dit à lui, sur lui. Il ne fait aucun reproche au peuple. Lui aussi, il sait garder le silence. Il sait que Dieu voit, Dieu sait. Et qu'importe les calomnies, qu'importe les incompréhensions, arrêtez de vous plaindre. Vous allez décourager les autres. Première chose. Deuxième chose, dans Job, je vous le lis. Job, chapitre 38, versets 1 à 3. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Ça y va fort. Hein. « Saint et rein comme un vaillant homme, c'est Dieu qui parle, hein. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Ouf, ça chauffe. Chapitre 39, verset 35. Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Parce que Dieu, entre-temps, lui a expliqué. Étais-tu là quand j'ai créé l'hippopotame? Et puis ci, et puis ça? Il dit, alors qu'est-ce que tu as à me dire? Tu contestes? Tu as une réplique à faire? Verset 37, voici, je suis trop peu de choses. Là, c'est Job qui parle, hein, c'est pas Dieu. Je suis trop peu de choses. Que répliquerai-je? Que te répliquerai-je? Je mets ma main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je répondrai plus deux fois, je n'ajouterai rien. Et ça continue. Verset 42. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Faut comprendre qu'on ne comprend pas tout. Faut réaliser que face à l'épreuve, on n'a pas toutes les donnes. Et ça se comprend. C'est compréhensible. Par contre, il faut se rappeler et comprendre que la raison de Dieu, la science de Dieu dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et que même s'il arrive une épreuve qui paraît immense à nos yeux, rien n'est plus grand que Dieu. Et si Dieu a dit qu'avec toute épreuve, il prévoit le moyen d'en sortir, eh bien c'est vrai. Et c'est pas moi qui vais lui donner la leçon. C'est à moi plutôt de tirer leçon de ce que je vais traverser en gardant le silence. J'avais noté d'autres textes une autre fois en disant « Oui, gardez le silence parce que le secours, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, Lamentation, il me semble. » Et dans Habacuc, il est dit que la terre fasse silence devant Dieu. Parce que Dieu est Dieu et Dieu est saint. Qui je suis devant Dieu pour parler et pour me plaindre? Alors, deuxième chose, oui, pourquoi Moïse appelle silence? Bien parce que souvent on regrette ce qu'on a dit sans les comprendre. On regrette après coup ce qu'on a dit, parce qu'on vérifie que Dieu est fidèle. Et troisièmement, comme je l'ai dit, Dieu est là. Et comme vous le racontiez, M. Go, cet homme un jour qui a dit, oh, faut sortir de là de l'église, faut sortir et tout, et qui vous a dit, voilà, c'est bon, là, je peux vous parler, Dieu n'est pas là. Comme si Dieu était que dans les quatre murs du lieu de culte, et qu'il n'entendait pas le reste. Dieu est partout. Et humblement, on doit tous reconnaître que Dieu sait tout, et que lorsqu'il regarde notre vie, on n'a rien à répliquer. Et Dieu est là. Dieu était là. Dieu, il était présent avec cette colonne incroyable. Je ne crois pas que c'était une flamette, une flamichette, je ne sais pas comment le dire. Je ne crois pas que c'était une petite allumette qui brûlait et qui les guidait. Je crois que c'était une colonne de feu, au point que le peuple d'Égypte, l'armée égyptienne, n'a pas pu traverser, parce que cette colonne était là, de nuée. Et comme par hasard, Dieu est bon, l'électricité n'existait pas à l'époque. Donc Dieu éclaire d'un côté, côté israélien, et de l'autre côté, c'est les ténèbres, ils ne voient rien. Et ils sont par contre empêchés d'atteindre le peuple d'Israël. Dieu veille sur sa parole, Dieu veille sur son peuple. Et nous sommes le peuple de Dieu, Dieu veille sur nous. Pourquoi se taire pour toutes ces raisons-là? Moïse ne s'est pas plaint, il est l'homme le plus patient de la terre. Nombre 12, 23. Il dit qu'à cette époque-là, c'était l'homme le plus patient de la terre. Qui c'est aujourd'hui? Ah, Michael Fontaine. Non. Que Dieu nous donne toujours sa patience, ça il veut le faire. Comme on dit, donne-moi ta patience, mais fais vite, j'en ai besoin. Pourquoi tout ça est arrivé? Pourquoi ce témoignage nous est laissé? Juste pour nous épater, nous dire c'est l'époque d'avant, c'est pas aujourd'hui? Ou plutôt pour nous laisser un modèle? Je crois que c'est pour nous laisser un modèle. Et il faut se rappeler que tout ce qui s'est passé là, c'est dit. C'est pas pour épater la galerie, c'est pas juste pour secourir un peuple, c'est pour éclater, faire éclater la gloire de Dieu. Tout ce que la Bible dit, c'est pour que sa gloire éclate à l'époque, mais qu'elle éclate encore aujourd'hui dans nos vies. Je veux que la gloire de Dieu éclate dans ma vie. Je veux que la gloire de Dieu éclate à Saint-Agne, à Saint-Gaudens, et partout où le Seigneur vous conduira et me conduira. Je veux que de partout le Seigneur puisse agir et faire manifester sa présence, sa puissance, qu'il nous délivre de l'ennemi, qu'il nous délivre du monde, puisque c'est l'image du monde qui veut regagner le peuple de Dieu. Est-ce que c'est pas encore le cas? Le monde cherche à gagner le peuple de Dieu et rentrer dans l'Église le maximum, et à nous de veiller et de compter simplement par la foi, sans faire des formules magiques ou crier plus fort que les autres, mais juste à dire « Seigneur, je te fais confiance, je garde silence, je me plains pas, je te fais confiance. Oui, c'est dur, oui, c'est difficile, mais je sais qu'il y a une issue. Je sais qu'il y a la lumière au bout du tunnel, je la vois, je la fixe des yeux, il y a une espérance pour moi. » Et les héros de la foi, c'est ceux qui n'ont pas obtenu la promesse sur la terre. Ils l'ont obtenu dans le ciel. Quelque chose d'incroyable. Hein? Eh bien, tant pis, ils ont eu l'espérance jusqu'au bout. Et ils ont obtenu la promesse éternelle, celle de l'éternité avec Dieu, celle de la gloire du ciel. Et ils sont un exemple pour nous aujourd'hui. Ces hommes, ces femmes, torturés, sciés, comme c'est dit, c'est des exemples pour moi. Combien j'étais touché lorsque le responsable nous donnait ce témoignage de ses frères, ses sœurs, persécutés pour leur foi. Il rendait le témoignage il y a quelques semaines, il était dans la maison d'un pasteur, et ce pasteur y racontait qu'à cause de sa foi, on l'a mis en prison, et qu'on a voulu le faire renier Jésus-Christ. Lui, un homme qui connaissait Dieu, qui aime le Seigneur, on l'a mis dans le camp des homosexuels. Et il a été violé plusieurs fois pendant un an. Et à chaque fois qu'il lui arrivait ça, il disait qu'il priait pour ceux qui lui faisaient ça. Dieu lui donnait la force de le faire. Un an. Et comme si ça ne suffisait pas, on lui dit, tu vas faire les fosses septiques à main nue de la prison. Et pendant un an, une longue période, plusieurs mois, il a plongé ses mains pour ramasser toute la fosse septique, tout ce qu'il y avait dedans. Et aujourd'hui, il est couvert de psoriasis sur ses bras à cause de ça. Il est sorti de la prison, il a renié Jésus-Christ. Vous croyez que c'est ça? Non. Il est sorti, il a commencé à raconter combien Jésus était fidèle, puisqu'il en est sorti. Une épreuve incroyable. Je ne peux même pas décrire. Ni connaître, ni imaginer. Il est sorti, il a commencé à prêcher, à raconter son témoignage, à dire combien Jésus est fidèle. Il a raconté comment Jésus l'avait gardé, de situations données, de l'amour, même pour ceux, les geôliers, tout ça, etc. Je ne sais pas si on dit encore ce mot-là, les gardiens. Et il a aujourd'hui une église de 1300 membres, mais ils n'ont pas l'argent pour le payer. Et il n'avait même pas de quoi avoir un puits dans son jardin. Et parce qu'il y a l'AEP, l'œuvre de l'AOP, bien ils ont pu lui payer de quoi faire un puits dans son jardin. Et avoir l'eau potable. Et moi, ça me dit, ouh, je comprends pourquoi je dois garder silence. Hein. notre femme, pareil, violentée en prison pendant des mois à cause de sa foi, mais qui a tenu ferme et qui aujourd'hui raconte son témoignage. Tout ça pour la gloire de Dieu. Ces personnes, on pourrait dire, mais pourtant, s'ils avaient la foi, pourquoi il leur arrivait ça? Moi, le premier, je n'ai pas la réponse. La seule chose que je sais, c'est que si Dieu l'a permis, il prévoit le moyen d'en sortir et qu'il a des promesses bien meilleures que ce qui se passe sur la terre. Et les pires vies sur la terre ne vaut rien à côté de l'éternité dans le ciel. Et vous imaginez cette personne, ce pasteur dit, j'en veux pas à ceux qui ont fait tout ce qu'ils ont fait. Lui, le premier, il n'est pas en train de dire, mais pourquoi? Il est en train de dire, merci Seigneur, parce que tu m'as gardé dans la foi, malgré tout ce que j'ai vécu. Ça m'encourage. Et ça me donne de l'humilité aussi. Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Puisque c'est pour la gloire, dès que c'est fini, vers chapitre 15, vous le lirez à la maison, je crois que c'est les 19 premiers versets, il fait un chant, il compose un cantique. Extraordinaire. Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel, et ils dirent, et vous le lirez ce soir avant de vous coucher, de voir combien Dieu a été fidèle, et combien ils peuvent pousser des cris de joie. Il est dit les mots action de grâce, louange, célébration, exaltation. Parce qu'il y a de la joie à vivre des expériences avec Dieu. Et quelle expérience! Qu'on puisse vraiment garder ce modèle à l'esprit Moïse et dire Seigneur, aide-moi, secours-moi à ne pas me plaindre, mais à vivre pleinement ma vie avec toi pour qu'au moment difficile, je ne perde pas la foi, mais que je regarde et que je vois tes miracles, que je regarde et que je vois ton secours, que je regarde à toi et que je sois ébloui par ta présence. Vous avez vu? Ils regardaient même plus à la nuée. Ils avaient oublié que Dieu était là, ils se plaignaient. Qui ose, je ne sais pas moi, se plaindre devant Dieu? Mais ils ont osé. Comme quoi on peut être près de Dieu et ne pas réaliser sa présence. On va incliner nos cœurs et réaliser la présence de Dieu. La présence du Seigneur Jésus, oui, par son esprit. Seigneur, ce soir, nous avons médité cette parole et je voudrais tellement qu'elle reste gravée dans mon cœur et gravée dans le cœur de chacun. Tu dis que toute parole a été donnée pour notre instruction, toute prophétie, tout ce que tu as dit, Seigneur, c'est pour notre instruction. Et nous avons soif de grandir avec toi. Ce soir, nous réalisons bien sûr que tu as été fidèle dans le passé, mais nous croyons aussi que tu seras fidèle dans l'avenir et que tu es déjà fidèle aujourd'hui. Si tu as dit que tu es avec nous dans l'épreuve, c'est que tu es là. Donne-nous d'ouvrir les yeux, de regarder et de pouvoir discerner que tu es présent au milieu de nous. Peut-être il y a des petits détails, Seigneur, dans lesquels nous passons à côté, mais tu es là. Tu es là, Seigneur. Donne-nous de croire, d'avoir cette foi qui fait ouvrir les yeux, qui fait tomber les écailles. Seigneur, donne-nous de ne pas étudier la parole comme des bons théologiens, mais comme des hommes de foi, comme des hommes, des femmes qui se laissent guider et saisir par le Saint-Esprit. Ce soir, nous voulons, comme on l'a chanté, être remplis de l'Esprit de Dieu, être remplis de toi pour comprendre ce texte qu'on a étudié ensemble, prendre pour modèle cette vie de Moïse, imiter la foi de Moïse comme tu nous y as invités dans ta parole au travers de celui qui a écrit le livre aux Hébreux. Seigneur, nous voulons vraiment nous souvenir que ça vaut la peine d'avoir de la foi en toi parce que tu honores la foi de celui qui croit en toi, de celui qui la place en toi. Merci de nous avoir laissé cette parole. Donne-nous de l'aimer, de la méditer toujours plus. Pardon Seigneur pour toutes les fois où on se plaint. Pardon Seigneur pour toutes les fois où on ne réalise pas le bonheur qui est le nôtre. De vivre dans un pays où on a la permission de prêcher ta parole, d'exercer notre foi, de manifester notre foi par des réunions, par de la louange lorsque nous nous rassemblons en ton nom. Merci encore pour ces chants qui ont été composés, qu'on peut chanter librement et ne pas taire à mi-voix ou chanter à mi-voix. Seigneur, nous croyons que tu nous fais des grâces et nous voulons les réaliser. Ce soir, Seigneur, donne-nous en lisant ce cantique, ce chant, de réaliser encore aujourd'hui que c'est possible de voir ta gloire, possible de voir des miracles se passer comme cette mer qui s'est ouverte, comme une muraille à droite et à gauche, et qu'on peut passer au travers des épreuves. Oui, ça nous donnera de mourir à nous-mêmes, comme cette mer rouge qui nous parle de ton sang et de la croix. Oui, ça nous donnera d'abandonner, Seigneur, notre propre justice, nos propres mérites, et de savoir que si nous sommes debout, si nous sommes libres, ce n'est que par ta grâce, Seigneur. Accorde-nous de réaliser cela, et de le vivre chaque jour, et d'être des hommes et des femmes qui encouragent les autres. Il y a besoin d'ouvriers. Moïse était un ouvrier en son temps exceptionnel. Donne-nous, nous aussi, d'être des ouvriers dans la moisson et de nous lever et de vouloir ressembler à tous ces hommes qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué ta parole et qui sont pour toi, Seigneur, des modèles pour nous que tu nous laisses afin que nous les imitions Merci pour ton esprit qui nous donne d'arriver à cela, sans quoi nous ne pourrions jamais obtenir ces grâces-là, de vivre tout cela. Mais nous croyons en ton esprit, nous croyons encore aujourd'hui que tu remplis du Saint-Esprit, que tu baptises dans le Saint-Esprit. Oui, si nous avons fait ce choix de t'obéir, de te chercher, de te le réclamer, d'aimer ta présence, d'avoir soif de toi et de servir en tant que témoin dans la grande mission que tu nous demandes d'accomplir, celle de servir au salut du monde. Que ton nom soit béni. Amen. Amen.